Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue sur Divergence FM pour l'émission Cinérama, émission du mercredi 25 mai. Bonjour Marine.
Bonjour.
Tu es aujourd'hui à la place de
Martin.
Martin qui est parti en stage intensif de randonnée dans le Lot. Il nous reviendra bien frais la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes tous les deux. Et de quoi allons-nous parler ?
Eh bien, on va parler de Cannes, bien évidemment, faire un petit bilan, puisque la clôture avait lieu dimanche. Nous allons dire quelques mots sur Lars von Trier, Kim Ki-duk. Également, une petite critique sur Midnight in Paris, qui avait fait l'ouverture. Et donc, un quiz sur les films qui ont Paris dans le titre.
Et il y aura même un deuxième quiz que cette fois-ci je proposerai autour des films qui traitent du pouvoir. Donc voilà, bah ce sera cet extrait et il faudra découvrir forcément le titre du film. Ça, ce sera en milieu d'émission. Et je vous parlerai aussi un tout petit peu de La Conquête, film de Xavier Duringer qui est sorti en même temps que Cannes. J'en aurai pas grand-chose à dire. Et puis je parlerai aussi un tout petit peu du Terrence Malick qui est La Palme d'Or. Et puis on découvrira aussi un montage autour de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, puisqu'on a l'habitude de faire ça à Cinérama. Mais on débute donc avec une sorte de débriefing, c'est ça ?
Oui, donc petit bilan donc pour la fin de ce 64e Festival de Cannes, qui aura été de l'avis général sans grande surprise, tout en proposant quand même une qualité d'auteur et de film rarement égalée. La sélection de cette année avait quelque peu déçu, puisque les mêmes noms revenaient encore et encore. Des noms bien connus tels que Almodovar, avec un film dont le titre va sans doute inspirer quelques contrepéteries douteuses. La peau que j'habite, acquis Coris Maki, déjà gagnant de la Palme d'Or pour L'Homme sans passé en 2002. Nanni Moretti, également récompensé en 2001 pour La Chambre du Fils. Et bien sûr, les frères Dardenne qui, avec Le Gamin au vélo, revenaient à Cannes pour la cinquième année réussissant. Quant à eux, l'exploit de repartir à chaque fois avec une récompense. La plupart des autres réalisateurs revenaient pour la deuxième fois, comme la japonaise Naomi Kawase, Nicolas Winding Refn, qui avait déjà présenté à Cannes le premier Pusher de sa trilogie, ou encore Paolo Sorrentino, en compétition avec Il Divo en 2009, une année où le festival s'était avéré très politique dans ses choix artistiques. On ne peut guère en dire autant pour cette année 2011, le festival de Cannes ayant été assez consensuel et le palmarès final démontre une vraie volonté de n'oublier personne. Bien que le grand perdant reste Pedro Almodovar, le seul à repartir les mains vides après quatre passages sur la croisette. Seule audace à relever, la présence en compétition de Takeshi Miike, qui nous présentait le tout premier film en 3D, sélectionné donc dans cette catégorie. La Palme d'Or aura finalement été attribuée à un cinéaste quand même rare, Terrence Malick, pour The Tree of Life, dont nous parlerons tout à l'heure. Alors la France aura été plutôt bien représentée sur le festival avec le prix du jury attribué à la seule française de la compétition et l'une des rares femmes, Maïwenn Lebesgue pour le film Police. Le prestigieux prix d'interprétation masculine revient à Jean Dujardin, un choix un peu surprenant pour un acteur plus grand public que cinéma indépendant, mais le film The Artist, pour lequel il vient d'être récompensé, est néanmoins un pari osé, à savoir un film muet et en noir et blanc, réalisé par Michel Hazanavicius, qui avait déjà fait les OSS 117. Une vraie consécration pour celui qui interprétait tout de même, il y a quelques années, Bryson Ice.
Oui.
Et Jean-Paul Belmondo, qui incarne plus un fantôme du cinéma populaire qu'une figure mythique de Cannes, aura eu droit à un hommage au cours d'une soirée entièrement consacrée à sa carrière. Une présence du cinéma français plus forte donc, mais rappelons tout de même qu'un réalisateur français a rarement gagné la Palme d'Or, les deux dernières ayant été dévolues à Laurent Canté pour « Entre les murs » en 2008 et à Maurice Pialat pour « Sous le soleil de Satan » en 87, un temps lointain où l'on pouvait encore faire un peu de provocation sans être banni du festival.
Eh bien, la Palme d'Or, à l'unanimité,
à Maurice Piala pour « Sous le soleil de Satan ».
Je voudrais vous demander d'écouter Maurice Piala, parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler.
Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et... Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus.
Voilà, donc c'était Maurice Piala qui venait chercher la Palme d'Or au temps du festival où on pouvait encore venir chercher sa récompense avec un vieux gilet pourri.
C'est vrai.
Les choses ont changé quand même depuis.
Bah, il faut dire que Piala n'y mettait pas du sien aussi. Hein.
Je
crois qu'il était beaucoup intervenu lors de ce festival de Cannes en 87. Et puis que c'est quelqu'un qui est vraiment atypique, Piala. Hein. C'est déjà un cinéaste forcément de talent, mais qui, dans son cinéma, ça se voit qu'il y a quelque chose de vraiment particulier, qu'il y a une trempe. Et puis en plus, il est paraît-il... Moi, j'ai vu des images d'ailleurs, il est quand même assez dur avec ses acteurs. Donc là, ce qu'on ne voit pas... puisque c'est de la radio, on ne le voit pas, mais il brandissait le poing quand il disait « Moi, ça me fait plaisir, finalement, vos chahuts. »
Les temps ont bien changé quand même depuis, puisque maintenant, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Il y a 2 ans, rappelez-vous, le prix d'interprétation masculine avait été décerné à Christoph Waltz pour son rôle de commandant SS dans Inglourious Bastard. Cette année, c'est Lars von Trier qui nous a livré une très belle performance de nazi, se privant ainsi d'une éventuelle palme pour son nouveau film Mélancolia. De nombreux membres du jury, tels que Olivier Assayas ou Robert De Niro, ne tarissaient pourtant pas d'éloges sur ce film qui poursuit sa trilogie de l'Apocalypse, commencée en 2009 avec Antéchrist.
Quelle ambiance ? Qu'est-ce qui se passe en fait ?
Alors en fait, c'est un extrait de Antéchrist, la scène où William Dafoe tombe nez à nez avec un renard dans la forêt qui mange ses propres entrailles et donc lui annonce que le chaos règne. Voilà, un film sur un sujet difficile à traiter, celui du deuil d'une mère sur fond de sorcellerie contemporaine. Ce film avait été présenté donc à Cannes en 2009 également, provoquant autant d'applaudissements que de sifflets. Et cela n'avait pas amélioré l'image de Lars von Trier, qu'on avait alors taxé de misogynie. Étrange accusation pourtant pour un réalisateur avec qui 3 actrices ont eu le prix d'interprétation à Cannes. Björk pour Dancer in the Dark, Charlotte Gainsbourg pour Antichrist donc, et cette année-là, Kirsten Dunst pour Mélancolia. Une bonne manière pour le jury de cette année de conserver le dernier film de Lars von Trier dans le palmarès, tout en lui signifiant bien qu'il n'est plus le bienvenu jusqu'à l'année prochaine. Car la relation étroite et ambiguë entre le cinéaste et le festival ne date pas d'hier, après avoir élaboré le Dogme 95, aidé d'autres réalisateurs danois, Lars von Trier présente son premier film, Element of Crime, avec succès en 84 à Cannes, tout comme Breaking the Waves, 10 ans plus tard, qui reçoit le Grand Prix. Il poursuit ensuite une filmographie complexe en réinventant sans cesse les codes et les genres, de la comédie satirique avec Les Idiots au théâtre filmé de Dogville, du drame à la comédie musicale en passant par le film d'horreur avec la série télévisée L'Hôpital et ses fantômes. Jamais à court d'inspiration ni de provocation, Lars von Trier a cette fois présenté à Cannes un film de science-fiction, Mélancolia, qui sort en salle le 10 août. Donc, on en reparlera un peu plus tard.
J'espère bien. On a toujours commenté les films de Lars von Trier ici à Cinérama. À noter qu'Element of Crime, qui était le premier aussi d'une trilogie, c'était un film de fin d'études. Hein, donc, pour dire comme le type était un peu précoce aussi. Hein. Donc, il présentait ça à Cannes.
On passe maintenant à l'autre sélection.
C'est la petite précision pour voilà. Plein la vue.
Merci Vincent. Quittons un instant donc la sélection officielle, car en parallèle se tenait la sélection un peu plus confidentielle, mais nettement plus intéressante, Un certain regard. À l'origine, créée pour récompenser des cinéastes peu connus par des aides financières, cette sélection alternative a bien évolué, puisqu'elle comportait cette année des réalisateurs autrefois présents dans la sélection officielle, et donc loin d'être anonymes. Gus Van Sant a ainsi fait l'ouverture, avec Restless, Bruno Dumont, Hong Sang-soo ou encore Robert Guédiguian étaient en lice dans cette sélection Un certain regard. Le prix est revenu à Kim Ki-duk pour son film Arirang. Un cinéaste coréen déjà multiprimé dans les festivals, un cinéaste à la carrière extrêmement dense. C'est un cas particulier puisque ce réalisateur a commencé sa carrière tardivement, mais il a enchaîné ensuite 12 films en 15 ans, portés par des titres aussi évocateurs que Bref, L'île, L'arc, Dreams ou Souffle. Ce sont des œuvres qui ont bâti en quelques années une filmographie très intimiste, pleine de poésie mais aussi de réflexion personnelle. Marqué par ses différentes vies de militaire et de prêtre, il met en scène des personnages marginaux qui sont autant de critiques de l'humanité. Avec ce cinéma contemplatif mais dérangeant, il est parvenu à la notoriété en Europe sans pour autant être connu en Corée. La consécration vient avec Printemps, été, automne, hiver, printemps, ce n'est qu'un seul film, et surtout avec Locataire, primé à la Mostra de Venise, qui reste son principal succès. Pourtant, à partir de 2008, il cesse son activité cinématographique et disparaît pendant 3 ans. Une période de remise en question artistique et de dépression qu'il retranscrit dans son nouveau film Arirang, en compétition donc cette année à Cannes. On va écouter tout de suite la bande-annonce. Et alors, c'est une musique coréenne traditionnelle, donc
une chanson,
on ne dirait pas, mais c'est plutôt une chanson. Je vais donc vous faire une traduction simultanée car je suis bilingue.
Et c'est une voilà. Chance, oui, bah, c'est une chance pour cette émission.
C'est comme ça, chacun ses talents. Hein. Ce monde est rempli de chagrin. Ma bien-aimée au cœur froid, vous me quittez. En me laissant notre amour. De chaudes larmes coulent sur mes joues.
Arirang. Arirang.
Ça finissait sur
son voisin qui le tue.
Au-delà des collines, envoyez-y moi, je vous prie.
Il met un deuxième coup.
Alors, des coups de feu sur cette jolie chanson, parce que en fait, c'est le film raconte comment Kim Ki-duk prépare son propre suicide. Donc, dans la bande-annonce, on le voit s'entraîner avec un pistolet. Voilà.
Un beau pistolet, d'ailleurs.
Tiré à l'arme à feu, oui. Il essaye toutes les possibilités. C'est donc ce film est présenté comme un journal intime du réalisateur. Et le style diffère radicalement de ses autres films, difficilement abordables d'après les premières critiques, qui sont plutôt mitigées. Cette analyse narcissique a des allures à la fois de renaissance et d'œuvre posthume, et semble être une conclusion à l'œuvre de Kim Ki-duk, qui déclarait considérer son cinéma comme un mélange de tension, de crise, de paix, d'ironie et de destruction. La date de sortie n'est pas encore connue. Bon, je pense que pareil, je ne le raterai pas.
Pour voir un peu le blues à la coréenne.
Je pense que ça doit vraiment faire une grosse différence avec sa filmographie passée.
Effectivement.
Eh bien, ceci étant dit, ce petit bilan étant fini...
Quelques mots sur la palme d'or qui a été décernée donc au film de Terrence Malick, The Tree of Life, que j'ai vu. J'aurais du mal à en parler. Moi, je ne peux que conseiller à quiconque d'y aller, de tenter le coup. Alors, je sais que c'est un film qui peut être difficile, parce que certains disent qu'il y a des longueurs, qu'il y a des effets dans l'image, parce qu'on voit d'ailleurs des images qui sont prises à la Terre vue du ciel. Hein, j'ai vu ça au générique, en fait, de Yann Arthus Bertrand. Donc il y a des images qui sont très très belles de la Terre. Mais ce qui est important, c'est en contrepoint de tout ça, ou même lié à ça d'ailleurs, c'est l'histoire familiale. C'est trois garçons qui sont dans une famille avec un père qui est Brad Pitt, et qui est dur avec notamment l'aîné de ses fils, mais aussi avec ses trois enfants. Il y a aussi la mère qui est très aimante, mais en retrait. Enfin, il y a une vraie histoire. La caméra s'approche très très bien de cette atmosphère familiale. On suit les enfants dans leurs mauvais coups, dans leurs bons coups. Enfin, c'est très 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 émotionnel. Et puis, il réussit vraiment un coup de maître. Coup de maître, vraiment, pour ce film de Terrence Malick. Moi, j'en étais tout retourné, à la fin. Donc, émotion, et puis en même temps, je trouve ça brillant. C'est du vrai cinéma, avec un vrai point de vue qu'on pourrait lui reprocher, parce qu'il y a une espèce de mysticisme qui est présent dans les grandes images. C'est ça pourrait paraître grandiloquent, mais en même temps, il y a un vrai point de vue, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive et qui... Alors peut-être un peu différemment de Kim Ki-duk, se dit voilà, je vais prendre ma caméra, je vais filmer comme ça, je vais raconter telle histoire et ça marche très très bien. Voilà, c'est un grand spectacle en même temps et puis je pense qu'on est forcément obligé de s'identifier parce que ça parle de nous, ça parle beaucoup d'amour et puis du lien qui nous unit à la vie qui est pas grand chose et en même temps tout. Voilà.
Palme d'or méritée.
Pour moi,
sans avoir vu les autres.
Ça aurait pu être une autre, peu importe, après, pour la Palme d'Or. Après, il y en a certaines, sans doute, qui sont contestables, mais...
En tout cas, c'est pas les frères Dardenne, quoi. Là,
c'est déjà bien, oui, que ça change un peu. Après, moi, j'aime bien les frères Dardenne, je sais que...
Oui, aussi, c'est pas vraiment du grand spectacle, du coup.
Non, c'est pas des... Voilà. Mais là je trouve ça... Il y a un rapport entre l'intimité, le très grand... Enfin, chez Terrence Malick, qui est vraiment bien mené, quoi. Et je comprends qu'il ait mis du temps, d'ailleurs, à réaliser ce film. Alors, pour revenir un peu sur la cérémonie de clôture et sur ce Cannes, puisque ça c'en était la conclusion, eh bien, nous allons écouter un petit montage sonore qui s'inspire de la cérémonie de clôture et puis des bandes annonces des films qui ont été primés.
On va à Cannes.
C'était notre président durant 11 jours. Il va révéler le choix de son jury. Merci d'accueillir Robert De Niro.
You fuck my wife. How could you ask me a question like that? How could you ask me? I'm your brother. You ask me that? Where do you get your balls big enough to ask me that? Just tell me.
Et nous avons essayé the best we could to décider et choisir le film que nous avons pensé était pas le meilleur, mais le meilleur, mais il y a tous sont très très intéressants et très bien. Anyway, j'espère que it's okay. Thank you. Merci.
Pour remettre le prix du jury, j'appelle l'actrice française Cara Mastroianni. Monsieur le Président, quel est le prix du jury?
You talking to me?
The jury prize goes
le
to prix police.
Du jury est décerné à police.
Ma fille m'a dit que t'es pas capable d'aller chercher un prix sans pleurer. Oh la vache!
Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe?
Ben, c'est la brigade des stupes qui a demandé plus.
Eh ben voilà, c'est la brigade des stupes qui a demandé, comme d'habitude, encore eux. Nous, s'occuper d'un môme, hein, que sa mère a enlevé dans un foyer, beaucoup moins intéressant, la protection des mineurs.
Monsieur Gérard, il y a une hiérarchie entre les services. Vous le savez aussi bien que
oui,
moi.
Oui, monsieur, mais cette mère-là, elle est toxico, dangereuse. Elle sort de tôle. J'ai Vigus qui attend en bas, qui doivent partir en opération pour chercher un môme. On doit couvrir Belleville, on a deux bagnoles.
Mon petit Yvan, ne vous énervez pas dans mon bureau, s'il vous plaît. Vous savez bien que je n'aime pas ça.
Oh la vache.
Chier.
Pour remettre le prix du scénario, voici la comédienne américaine Rosario Dawson.
Monsieur le Président, le prix du scénario.
You talking to me?
Le prix du scénario est remis à Joseph Sedar pour Herb Shulaim, footnote.
ורק אם אתם רוצים אפשר לחייך.
Pour remettre le prix d'interprétation féminine, j'appelle l'acteur vénézuélien Edgar Ramirez. Monsieur le Président.
You talking to me?
Ah, the best performance
le
by
prix
an actress,
d'interprétation féminine est remis à Kirsten Dunst pour Mélancolia.
Merci au Festival de Cannes d'avoir maintenu en compétition notre film.
I understand Hitler.
Je comprends Hitler.
But I think he did some wrong things. Yes.
Je pense qu'il a fait de mauvaises choses, bien sûr, mais je peux l'imaginer assis dans son bunker à la fin.
No, I'm just saying that I understand.
Ce que je veux dire, c'est que je comprends l'homme. Il n'est pas ce qu'on pourrait appeler un type bien, mais je comprends sa personne et je sympathise un peu avec lui.
C'est avec un rôle prévu au départ pour Penelope Cruz qui a préféré tourner Pirates des Caraïbes 4 que l'héroïne de Spider-Man, Virgin Suicides et Marie-Antoinette décroche le premier prix majeur de sa carrière, débuté très très jeune. Sous la direction de Lars von Trier, elle joue une jeune femme dépressive sur le point de se marier alors que la Terre est menacée par une collision avec la planète Mélancolia. Sortie de ce film, prévu cet été.
I want to do this the right way. I'm afraid that the planet will hit us anyway.
Pour remettre le prix de la mise en scène, j'appelle l'actrice et réalisatrice française Nicole Garcia.
Monsieur le Président.
Le prix de la mise en scène est remis à Nicholas Winding Refn pour Drive. Je tiens à remercier Michel d'avoir pu faire venir de l'argent des oligarques russes pour que je puisse tourner mon film à Hollywood. Yulorsky, qui m'a dit que si je voulais faire un film à Hollywood, il faut surtout sourire tout le temps.
Pour remettre le prix d'interprétation masculine, j'appelle l'actrice française Catherine Deneuve.
Oscar Wilde disait « There's no such thing as an actor, there are only actresses ». Alors je suis très heureuse de remettre le prix d'interprétation masculine ce soir.
Monsieur le Président.
Well, I'm the only one here.
The best performance le by prix an actor, d'interprétation masculine Jean est remis à Jean Dujardin.
J'aimerais pas être à ma place. Et merci à, allez, je vais le dire, à Michou, dit Michel Hazanavicius. C'est notre troisième film ensemble et ce mec a un talent dingue et depuis que je te connais, voilà, à chaque fois que tu me fais rentrer dans la photo, je fais que des rôles de gosse et je m'éclate et c'est un vrai pied. J'espère refaire d'autres films muets avec toi. Et voilà, maintenant je vais me taire parce que apparemment ça me réussit plutôt pas mal.
Et Pour remettre le grand prix, j'appelle le réalisateur Emir Kusturica.
C'est magnifique d'être présent ici, sur la scène, plus grande scène cinématographique. Mais alors, c'est plus beau d'en garder le souvenir. Je me suis souvenu d'auteurs qui ont eu Grand Prix. Pier Paolo Pasolini, Miloš Forman, Andrei Tarkovsky, Aki Kaurismäki.
Monsieur le Président.
Who the fuck do you think you're talking to?
Yes, the Grand Prix prize will go to two films.
Le Grand Prix sera décerné à deux films ex aequo.
Bir Zaman Lar, Alain Delon da.
Pierre Zamanlar, Alain Delon da.
Au vélo.
C'est-à-dire le petit fort d'anatomie et le gamin au vélo.
Je voudrais voir l'homme qui t'a vendu mon vélo.
Pourquoi? Pour lui dire que c'est un voleur?
Non, mon père lui a vendu. J'ai vu l'annonce qu'il a mise à la pompe à essence.
Et qu'est-ce que tu veux lui dire?
Pose une question sur mon père.
J'ai gardé son numéro de téléphone, tu veux qu'on l'appelle?
Oui.
Allez, ferme-le.
Pour remettre la Palme d'Or, j'appelle l'actrice américaine Jane Fonda. Monsieur le Président, quelle est la Palme d'Or?
Oh yeah? Huh? Okay.
The winner of the Palme d'Or is
la
the Tree of
Palme d'Or
life.
Est remise à Tree of Life, l'arbre de vie, Carousel.
The Tree of Life est seulement le cinquième long métrage en 37 ans de carrière de Terrence Malick, un maître du 7e art, déjà primé à Cannes pour sa mise en scène des Moissons du Ciel en 79. En salle depuis lundi, cette épopée de 2h20 qui a rappelé à certains le 2000 ans Odyssée de l'espace de Kubrick parle aussi bien de la création du monde que des rapports complexes entre un fils maltraité et son père dans les années 50 aux États-Unis.
Faire pour s'en sortir dans ce monde. Allez, cogne-moi. Cogne-moi. Allez, fils.
Il a peur de toi. Tu lui demandes des choses qui ne peuvent être réalisées que par un adulte.
Tout ce que je voulais, c'est que tu sois fort, que tu sois ton propre patron.
Le 64e Festival de Cannes.
C'était Sarah Foresti, la maîtresse de cérémonie. Et non.
C'était Mélanie Laurent.
Oh, je les confonds à chaque fois, Mélanie Laurent. J'adore Sarah Foresti, Mélanie Laurent un peu moins, mais c'était Mélanie Laurent. D'ailleurs, c'était pas très rock'n'roll, hein, comme.
Non.
Hein.
Merci,
on préfère Edouard
Monsieur
Baird.
Le Président.
Monsieur le Président, oui, voilà, c'est ce qu'on entend aussi bien dans le montage. Voilà, bah, c'était une conclusion pour Cannes et avec la bande-annonce donc, du grand gagnant de Tree of Life, de Terrence Malick.
On va revenir un petit peu plus en arrière à l'ouverture du Festival de Cannes. Ouverture cette année réalisée avec le nouveau Woody Allen, Midnight in Paris. Alors déjà sorti en salle, hein. Midnight in Paris, donc... de Woody Allen, ne vous laissez pas effrayer par la première et interminable scène du film qui se résume à une succession de plans de Paris et nous en présente tous les clichés. Car passé cette introduction qui vous fait craindre une carte postale de 2 heures ou tout au plus un film francophile plein de bons sentiments, la nouvelle création de Woody Allen s'avère, contre toute attente, pleine d'inspiration, preuve pour lui d'un renouveau inattendu. prenant comme point de départ le personnage de Owen Wilson, alias Jill Pender, un écrivain américain qui prépare son mariage en venant passer quelques jours dans la capitale, Woody Allen livre une réflexion très intelligente sur la vision fantasmée que le monde entier a de la soi-disant plus belle ville du monde. Car Jill Pender va découvrir qu'à minuit, la ville se transforme et redevient le Paris des années 20, celui de ses artistes préférés. Et il va ainsi croiser Hemingway, Picasso ou encore Dali. Le film passe alors de la comédie existentielle, qui est le propre de Woody Allen, à une fable surréaliste qui lorgne de façon réussie, sans pour autant être aussi hilarante, vers l'humour absurde des Monty Python. Il parvient à nous surprendre et à nous divertir en donnant tout son sens à un casting international impressionnant. Owen Wilson retrouve enfin, après le navrant Béaté, un rôle à sa mesure, avec un personnage typiquement alénien, cynique et naïf, qui parle trop, se remet en question et gobe du Xanax à toute heure. Les seconds rôles, comme Adrian Brody ou Kathy Bates, semblent aussi réellement s'amuser. Dommage que les comédiens français plombent un peu l'atmosphère. Gad Elmaleh apparaît 3 secondes et demie juste pour nous faire plaisir. Marion Cotillard alterne 2 expressions faciales, tandis que Carla Bruni, elle, n'en fait aucune puisqu'elle ne peut plus bouger les muscles de son visage. Critique ironique des Américains et hommage à une France qui n'existe plus. Midnight in Paris n'est pas à voir au premier degré. Il reprend les clichés pour en faire la matière même du film, jouant d'une mise en scène tout en fantaisie pour accompagner un scénario plus profond qu'il n'y paraît.
C'est incroyable! Regarde ça! Il n'y a pas une autre ville au monde comme celle-là!
Toi, tu es amoureux d'un fantasme.
Moi, je suis amoureux de toi.
Mais qu'est-ce que vous faites ici? Papa est ici pour affaires, alors nous on a décidé de jouer les parasites.
Oui. Super, on pourra passer un peu de temps ensemble.
Eh bien, nous avons pas mal d'obligations, mais c'est pas enfin quand.
Quoi?
Et une grande partie de l'œuvre de Rodin a été influencée par sa femme, Camille.
C'est Rose qui était sa femme.
Non, il n'a jamais épousé Rose.
J'espère que tu vas être moins asocial demain.
Et je dois avouer que moi, je suis bien moins séduit par lui que tu l'es. Mais c'est qu'un petit intello.
Il est un peu plus tannique. Que le 59. Je préfère une notion un peu fumée. Carole et moi, on va aller danser.
Oh.
On nous a parlé d'un super endroit. Intéressé?
Je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais j'ai besoin de prendre un peu l'air. Pas très tard. Je pense que je referai ce soir une de ces petites balades.
Où est-ce que Gil s'est encore enfui?
C'est son nouveau truc de traîner dans Paris.
Tu crois qu'il va où, Gil, tous les soirs?
Il marche et ça lui donne des idées.
Pourquoi es-tu si élégant?
J'étais juste en train d'écrire.
Tu te sapes et tu mets du parfum pour écrire?
Tu sais bien que je pense toujours mieux sous la douche, dont les ions très positifs font leur effet.
Je l'ai fait suivre par un détective.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas. L'agence de détectives dit que le détective a disparu.
Je me trouve dans une situation très complexe.
Voilà la bande-annonce de Midnight in Paris. Ne vous fiez pas à la bande-annonce, fiez-vous à moi. Elle donne une impression de petite romance parisienne. Le film ne se résume absolument pas à ça. Sans réaliser une œuvre révolutionnaire non plus, ou un film culte, Woody Allen nous prouve quand même qu'il retrouve une nouvelle jeunesse et... Elle nous fait passer un moment aussi agréable qu'un bon verre de vin.
En tout cas, ça fonctionne très bien. Hein. Les spectateurs se pressent dans les salles pour aller voir ce Midnight in Paris.
On va rester à Paris maintenant.
Oui.
Avec d'autres films qui se passent à Paris, ou du moins qui ont au moins Paris dans le titre. Et ça va être le Blind Test.
Qu'est-ce que j'attendais pour foutre le corps avec nos valises? Hein? Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sure et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Eh ben allez-y, quoi. Vous savez bien qu'on n'ira pas se plaindre. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors allez-y. Regardez, tiens, ils bougent même plus. Puis après ça, ils iront aboyer contre le marché noir. Salaud de pauvre.
La traversée de Paris.
Oui, ouais. Voilà, on a commencé facile. Culte, c'était bien la traversée de Paris. Deuxième extrait.
Je suis malade. J'ai un truc au cœur. Vraisemblablement, j'en ai plus pour très longtemps.
Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant?
Je sais pas, c'est pas un truc que t'as envie de dire à tout le monde.
Oui, mais justement, je suis pas tout le monde. Évidemment, t'as fait ta sœur, tu t'en fous.
Je vais peut-être crever. Je te le dis. Toi, tu m'engueules, putain.
Tu t'embêtes pas trop tout seul, parce que tu fais tes journées.
Je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur eux. Qui ils sont, où ils vont. Tu vois, ils deviennent des sortes de héros d'histoire que je m'invente.
Ou bien c'est Paris, hein, de Cédric Clapiche, son film choral.
C'est bien ça, avec des acteurs on ne peut plus parisiens, Romain Duris, Juliette Binoche, Lucchini, Mélanie Laurent et Albert Dupontel aussi.
Oui, qui est plutôt bien. Enfin, il est souvent bien, Albert Dupontel, avec une bande originale aussi. Enfin, on a entendu Eric Satie, il y avait aussi Wax Taylor, donc plutôt musique électro. Enfin, voilà, c'est un bel emballage.
Bien ces bandes son, oui. On reste dans les films assez récents maintenant.
Carotte.
Oh, carrot, sure.
Carrot, Jack.
Oh, we're gonna eat the bunny's food as well, huh?
Yeah.
Are his toys in there?
Sauce, wine, black, white.
White wine? Oh, wine blanc.
Oui, vin blanc. Anna, tu me donnes ton assiette,
no,
Anna?
No, I don't want.
Quel casse-couille.
Bon. Mais ça va, papa, tu t'es bien servi, c'est ton régime, là, c'est ça?
C'est de la viande maigre, le lapin.
Bon, enfin, quand même, t'as vu ce que tu t'enfiles.
Et toi, tu as vu ton gros cul?
Allez. Mais il est malade, ce mec. Ouais, ben, j'ai un gros cul parce que j'ai arrêté de fumer il y a un an et demi, et voilà.
Moi, oui, j'ai perdu le titre, mais c'est le film de Julie Delpine, c'est comédie ça. Vraiment, vraiment, vraiment
très,
bonne.
Très drôle, ouais. Ouais, c'était Two Days in Paris. Je ne sais pas si ça a été traduit en deux jours à Paris. J'espère que non.
Je ne pense pas. En tout cas, c'était une petite satire sur la vision que pourraient avoir les étrangers de la France. Hein,
oui.
Puisqu'elle vit aux États-Unis, elle vit en France, donc il y a le chauffeur de taxi raciste, voilà, il y a tout
un tas
de...
Oui, elle ramène son copain américain qui est complètement déboussolé et qui se retrouve perdu dans le Paris, c'est pas du tout ce qu'il a imaginé, il est très choqué par le métro, par tout ça. Quoi.
Par tout ça, et puis par ses ex à elle, enfin voilà.
Oui.
Voilà, elle a eu une vie sexuelle à Paris, et puis là c'est un repas familial avec son père, quoi.
Oui,
c'est
lui, fait qui découvrir lui dit t'as un gros cul. Le lapin aux carottes avec la tête du lapin encore entière dans la marmite. Ça choque beaucoup son petit copain.
Film réjouissant.
Oui, en effet.
Oh, allons. Sauve-toi avant qu'il soit trop tard.
Quoi? Maintenant? On vient juste de commencer. Je comprendrai jamais les femmes.
Va-t'en! Ta vie est en danger!
Bah non, pourquoi? C'est Claude, ton mec?
S'il te plaît! Va-t'en! Va-t'en! Vite, sauve-toi!
Séraphine, qu'est-ce qui te prend?
Go!
Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Va-t'en, c'est ta vie qui est en jeu! Sauve-toi!
Mon Dieu, c'est un film de genre.
Alors, petit indice, c'est Julie Delpy également qui joue, mais elle ne réalise pas ce film. Alors là, pour le coup, ça diffère complètement au niveau du genre. Oui, c'est un film d'horreur.
Aucune idée.
Le Loup-garou de Paris. Ah. Voilà, qui t'a sorti quelques années, je pense en 98 environ.
Grâce à la traite, nous avons obtenu premièrement de consacrer la reconnaissance de l'armée intérieure française dans Paris. Deuxièmement, de conserver les édifices que nous occupons. Vous savez parfaitement que la préfecture n'aurait pas pu tenir une heure de plus.
Faute de munitions.
Pourquoi?
En avez-vous demandé?
La délégation a demandé à plusieurs reprises aux alliés d'envoyer des armes et de pousser une pointe sur Paris. Elle n'a pas encore reçu de réponse.
Mais enfin, voilà, il y a deux semaines.
Et le général Patton, que j'ai moi-même rencontré, ne m'a pas caché que le plan des alliés était de faire tomber Paris par encerclement. Il nous faut donc, sur le plan militaire, gagner du temps. C'est-à-dire maintenir le gentleman agreement que nous avons conclu.
Je sais pas, la libération de Paris ou la bataille de Paris, non, je sais pas.
Avec Alain Delon, un film de René Clément, c'était Paris brûle-t-il.
Ah oui, ah, quand même, oui. D'accord,
oui.
J'ai pas vu.
Et tu as été admise, bien sûr. Tu as quitté Boston pour emménager à Paris. Un petit appartement dans la rue du Faubourg Saint-Denis. Je t'ai montré notre quartier, mes bars, mon école. Je t'ai présenté à mes amis, à mes parents. J'ai écouté les textes que tu répétais, tes chants, tes espoirs, tes désirs, ta musique. Tu as écouté la mienne, mon italien, mon allemand, mes bribes de russe. Je t'ai donné un Walkman. Tu m'as offert un oreiller. Et un jour, tu m'as embrassé.
Aucune idée.
Pas évident, mon petit indice pour trouver. C'est un film composé de 18 courts-métrages et celui-ci est le premier.
Ah,
Celui-ci est avec Nathalie Portman qu'on n'entend pas parler ici. C'était Paris je t'aime.
C'était
le court-métrage Faubourg Saint-Denis.
Alors tout ça, ça doit te paraître plutôt étrange, non? Est-ce que tu te rends compte que je ne te vois pas et que toi tu me vois? Aucune importance. S'il y a quelque chose dont tu désires parler, je t'écouterai. Ça te va?
Ce serait-il pas Paris-Texas?
Je pense que c'est ça, en effet. Cannes également, d'ailleurs, pour ce film. Et dernier extrait maintenant.
Allez, bon appétit. Tu vois, je te dis qu'il délire. Tu ne te rends pas compte parce que tu passes pas souvent, mais moi...
Il a toujours été chiant.
Non, maintenant, il contrôle plus son univers. En plus, il oublie des trucs.
Je vais faire gaffe.
Allez, habille-toi. Allez, viens faire un tour avec moi dans Paris.
Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans Paris?
Je veux qu'on aille voir les vitrines du Bon Marché. Dans le... À Noël, tu m'emmenais toujours voir les vitrines du Bon Marché.
C'est dans Paris.
Oui, je pouvais pas ne pas mettre Louis Garrel un peu dans ce quiz. Donc, c'était dans Paris avec également Romain Duris à nouveau. Voilà, donc c'était le dernier extrait. Je dois quand même préciser que j'ai trouvé environ 150 films qui contenaient le mot Paris dans le titre.
Alors qu'il n'y a qu'un film sur Deauville.
Oh, oui. Incroyable. Et sur Montpellier alors?
Sur Montpellier, pour l'instant, il n'y en a aucun.
Bon,
et ouais.
À faire.
Alors, peut-être le dernier morceau. Non? Non, il n'y a pas de morceau. Ah, je croyais qu'on se quittait avec un petit morceau de
Un tango à Paris. Je remercie beaucoup Bruno à la technique, qui m'a beaucoup aidé. Merci.
Il est longuement remercié, ce Bruno. C'est parti.
Il est fou. Nicolas n'est pas fou, il est juste maniaco-dépressif.
Il a une méconnaissance profonde des mécanismes de ce pays.
Tu n'es pas quelqu'un qui rassemble, tu es trop marqué à droite.
Qui ne peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France?
Mais quel talent! Il n'y en a pas beaucoup comme lui à droite.
Il va exploser en vol. Quand il va dévisser, il va partir en tanche.
Ce nain va nous faire une France à sa taille.
Je n'ai pas envie de cette vie.
Je n'ai pas choisi la politique, c'est la politique qui m'a choisi!
La Conquête, réalisée par Xavier Duringer. On en écoutait une courte bande-annonce. Alors que reste-t-il à dire sur ce film, ce biopic de notre président surmédiatisé? Peut-être pas grand-chose. Ce que le film parvient à faire, c'est bien à humaniser un ultra-président connu pour ses envolées au Karcher. Pour peu qu'on se soit intéressé à la politique ces dernières années, on retrouve les petites phrases qui sont apparues dans la presse. Le croc de boucher, Villepin qui nous explique qu'on ne peut pas élire un président qui ne sait pas garder sa femme. Ou encore les petites vacheries sur Chirac. Parlons-en, il a le rôle le plus sympathique, semblable à son guignol, une bière de Corona à la main. On le voit qui fait ce qu'il peut pour contrer le petit Nicolas, la piquichante, selon ses mots. Alors Villepin, l'adversaire de Sarkozy, en prend pour son grade et on voit même rejouer les débuts de l'affaire Clearstream. Rachida Dati en prend aussi pour son grade, vue comme une femme légère, toujours prête à fanfaronner et peu soucieuse de la chose publique, ce qu'elle n'est pas loin d'être. Les coulisses du pouvoir de cette ascension de Nicolas Sarkozy sont montrées avec beaucoup de détails. Les rencontres de Sarkozy avec Chirac, les déjeuners glaciales entre Sarkozy et Villepin. Pour tout dire, c'est une overdose de Sarkozy, mais c'est bien normal puisqu'on parle de sa carrière politique, des tactiques pour occuper les médias, de ses qualités comme de ses défauts. Lors de cette même campagne 2007, c'est Arnaud Montebourg qui avait gaffé sur le plateau de Canal+, en expliquant que le seul défaut de la candidate Ségolène Royal était son compagnon. Et bien dans La Conquête, on voit aussi que le compagnon peut être une faiblesse. La relation qu'il entretient avec Cécilia humanise Sarkozy, l'humanise tellement qu'il reste grossier, alors ça on le savait, mais qu'il sait se montrer presque affectueux envers sa femme. Alors les départs, les coups de gueule, et finalement le retour éclair de Cécilia... Oui, c'est Cécilia, qui ne votera pas au deuxième tour, rythme sa campagne. La conquête aurait pu tirer vers le romanesque, mais reste une représentation des rouages de l'accession au pouvoir, la bataille avec l'opinion, les alliances, les affrontements musclés. Il y a de nombreux hors-champs qui nous sont dévoilés, comme la connivence entre les journalistes et le candidat, ou entre les patrons de presse et certains hommes d'État. On voit aussi très bien comment les sorties du candidat sont mises en scène. Nous retenons l'image prise par les photographes, mais le hors-champ de la photo, ce sont des photographes massés sur une charrette de tracteur. Denis Podalydès incarne à la perfection le candidat Sarkozy dans le phrasé et les mimiques, mais ce qu'il manque peut-être au film de Duringer, c'est un regard politique, un vrai point de vue, et pourquoi pas une critique même légère de sa politique, puisqu'on sait ce que le candidat Sarkozy a fait par la suite. Parce que finalement, de savoir comment Sarkozy y est arrivé, de suivre d'aussi près sa biographie, on s'en serait peut-être bien passé. Le film dans 10 ans n'aura pas grande valeur, il est très marqué historiquement, d'autant plus qu'il essaie de mimer les personnages réels qui seront inconnus pour les générations futures, qui seront plutôt occupés à démanteler les centrales nucléaires. C'est plus un film pour la télévision à programmer pour une Téma Arte qu'un film pour le cinéma. Mais on sait bien qu'un projet pareil coûte de l'argent et que les télés préfèrent le financer indirectement par le cinéma que pour leurs médias directement. Politiquement, là aussi, c'est moins risqué. Et nous, à Divergence, on a un point de vue sur Nicolas Sarkozy.
Ah non, touche pas, pas. Ah non, bah, casse-toi alors. Une salive.
Casse-toi alors, casse-toi.
Toi-même.
Merci. Hein ? Bonsoir. Comment ça va ?
Divergence FM 93.9.
Voilà. On a donné la fréquence, c'est toujours Cinérama. Et on passe maintenant au quiz. Un quiz où tu vas pouvoir jouer, Marine, où vous allez pouvoir jouer, chers auditeurs. Et on va parler eh bien, des films qui traitent du pouvoir.
Tout cela coïncide parfaitement avec les autres témoignages. Pourtant, une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste.
Moi, oui, vous. Et Yago aussi, puisque vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé sûrement, qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais.
Mais je déteste les communistes. Je vous... Les paroles ne m'intéressent pas, je vous déteste.
Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase.
Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis.
Et Yago.
Yago aussi.
Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien.
Alors Marine, tu voulais tenter quelque chose, mais tente,
non,
hein.
Non,
bah si, il faut tenter, non?
Frost, Nixon?
Non, c'était la voix de Jean-Louis Trintignant.
Ah oui, donc non.
Voilà, qui est procureur, et c'est un film de Costa Gavras de 1969, c'est Z, voilà. Deuxième extrait.
Mais pourquoi il se l'est fait? Il pensait que Kashmir MacLeod serait tellement flatté qu'elle ne trahirait pas leur secret.
Au fait, attendez une minute, et si c'était du bidon?
Qu'est-ce que ça changerait?
Il vaudrait mieux que ce soit faux.
Pourquoi? Hitler n'a jamais regardé une autre femme qu'Eva Braun. Il te paraît meilleur que Stanton? Ou Jefferson, ou Roosevelt, ou Kennedy, pour qui on a rêvé de bosser et qui baisait à tout bout de champ?
Ouais, mais c'est pas l'angle officiel pour les interviews.
Non, bien sûr que non.
Dans le cadre de la campagne, aujourd'hui un rebondissement explosif pour le gouverneur Jack Stanton dans sa bataille pour l'investiture démocratique à la présidentielle.
C'est une coiffeuse qui prétend avoir eu une longue liaison amoureuse avec Monsieur Stanton. Son récit, qui est encore officieux, est publié aujourd'hui dans le Flash. Il n'y a pas eu confirmation du gouverneur concernant cette jeune femme, Kashmir MacLeod.
Oh, c'est
mais
pas
cette
croyable.
Accusation suit de près la révélation de l'arrestation du gouverneur Stanton par la police en 1968 à Chicago.
Information, déformation, ah, quelle merde.
Peut-être Coppel veut un membre de l'équipe dans son émission.
Oui, 60 Minutes nous veut.
Moi, je trouve ça insensé. Ils vont crédibiliser cette saloperie, la traiter comme une info, et il faudrait qu'on supporte ça.
On peut pas fermer les yeux. Ils pouvaient le pardonner pour Chicago, ça s'est passé il y a 30 ans, et le pardonner pour Cachemire parce qu'elle a voulu se faire du fric, mais pas pour les deux, pas l'une après l'autre, voyez ce que je veux dire?
Oui, je sais.
La plupart des gens vont dire on va quand même pas voter pour un radical hippie qui fait des galipettes avec des coiffeuses.
Il ne s'est pas envoyé Kashmir MacLeod. Si vous vous refusez à l'admettre, sortez immédiatement.
Et voilà. C'est une campagne hein, sur fond de révélations sexuelles. Alors, il y a d'abord eu ce candidat à la présidence qui a fumé un joint de marijuana pendant sa jeunesse et qui, pendant la campagne, eh bien, est accusé d'avoir eu une relation inappropriée. Mm-hmm. Voilà, donc c'est Bill Clinton. C'est un film américain et c'est Primary Colors, un candidat face à son destin. C'est un film de Mike Nichols avec le candidat Clinton, alors qu'il y a un autre nom dans le film et qui est interprété par John Travolta.
Docteur Garrigan, venez voir le président. Il est très malade.
Oh, ils m'ont empoisonné. Ils ont tenté d'assassiner le président. Oh, Nicholas.
Bien. Je vais devoir palper votre ventre.
Ah, oh, les hommes de beauté se cachent partout.
Oui.
Ils veulent me tuer, Nicholas.
Je suis obligé de recommencer. J'y vais.
Oh.
Encore une fois. Voilà, c'est bien. Voilà. Je crois que je sais ce dont il s'agit. Laissez-moi juste écouter. Parfait. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il a. Un petit moment. Je vais vous demander de vous asseoir sur ce pouf, ici.
Hey, tu fais quoi ?
C'est rien, vous inquiétez surtout pas.
Tu fais quoi, là ?
Je vais simplement appuyer sur votre ventre pendant que vous vous lèverez. Attends, on y va.
Je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Ah, tu es un très bon docteur.
Merci.
Non, c'est moi.
Et surtout à l'avenir, ne mélangez plus bière et aspirine.
Alors, dans quel film on voit un président africain victime d'une grosse flatulence ?
Je sais pas, c'est pas le dernier roi d'Écosse ?
Si, ça avait été trouvé en régie aussi. Le dernier roi d'Écosse, donc, qui a valu à Forest Whitaker, qui interprète Idi Amin Dada, eh bien, tout simplement un Oscar.
On a une source à l'inspection générale des finances qui nous a dit qu'il y a tout un tas de magouilles au comité de réélection du président.
Soyez plus clair.
Ils ont une caisse noire.
Des centaines de milliers de dollars en liquide qui ne sont pas enregistrés.
Des centaines de milliers de dollars ?
Des commentaires au comité ?
Non, ils ne sont pas disposés à commenter, c'est le mutisme.
Et à part ces fonds, quelle nouvelle ? Où vous en êtes de votre putain d'enquête ?
L'argent est la clé de toute cette histoire.
Dixit ?
Gorge profonde.
Qui ?
La source de Woodward, le monstre des parkings, c'est sans contact au gouvernement.
Le monstre des parkings, de Dieu, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con ? De quoi s'agit-il ?
Il nage en eau profonde, alors je l'ai surnommé Gorge Profonde.
Alors, eh bien, grand film autour d'un scandale politique. Alors, le petit indice, c'est Gorge Profonde, hein, qui était un indicateur.
Les hommes du président.
Les hommes du président, voilà. Oui. D'Alan G. Pakula. Film de 76, voilà.
Merci. Et merci à vous, monsieur le président, pour ces paroles, mais je n'ai fait que mon job.
Cher Franck, j'ai décidé de créer dès ce soir un poste spécial pour vous. Il impliquera des journées de 20 heures, des nuits infernales, et vous serez entouré par les plus ignobles éléments de la société.
Vous voulez me prendre dans votre cabinet ?
Non. Non, je veux...
Voilà. Alors, indice, bon, c'est un film humoristique, c'est une longue série, hein. Il y en a eu plein, des comme ça. Non, bon, c'était Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Eh oui, réalisé par David Zucker avec la voix française de Leslie Nielsen.
Assieds-toi. Tu as vu ma situation, je suis un vieillard malade. Tu crois que je peux supporter ça ? Des attaques à Dominem, et puis après quoi, la dignité nationale et pourquoi pas de la prison ? Tu sais ce que j'ai lu sur moi hier ? Sa vie privée, elle non plus, ne fut pas exempte de rumeurs. Qu'est-ce que c'est que ces salmigondis ? Des histoires de fric qui retombent sur mon intimité. On croit rêver.
Frédéric, on est dans le même bateau. J'ai besoin de votre aide. Il faut qu'on passe par vos amis dans la magistrature pour calmer cette juge. C'est tout.
Je vais te répondre en trois points. Un, je ne peux pas le faire. Deux, je ne veux pas le faire. Trois, je ne vais pas le faire.
Frédéric, maintenant ça suffit. Pour qui me prenez-vous ? C'est moi le président. Alors vous allez arrêter de me faire ce numéro. Vous me parlez d'honneur. Et qu'est-ce que vous y connaissez à l'honneur ?
mon pauvre garçon. Mais tu n'as pas toutes les cartes en main. J'ai encore tous mes relais dans le parti. C'est simple, si tu ne te montres pas capable de régler ça en douceur dans les jours à venir, tes petits amis députés et le clan des vertueux vont recevoir des consignes très claires. On leur laisse la direction du parti s'ils votent en faveur de la haute cour. Ensuite terminé, je n'aurai plus qu'à regarder ta tête rouler dans le panier.
Alors, Marine, je crois que tu as trouvé.
Le président.
Président. C'est pas le président, oui, parce que le président est bien le documentaire sur la campagne de Georges Fraîche. Mais là, c'est président tout court, donc film de Lionel Delplanque avec Albert Dupontel et Claude Riche qu'on a entendu ici pendant sur l'extrait. Et bah, c'était un vrai film hein, sur les rouages du pouvoir et comment un président un peu idéaliste en fait se fait rattraper par le monde politique. Voilà, et ça aurait pu suffire dans cette filmographie française autour de, finalement, qu'est-ce qu'une campagne politique et comment accéder au pouvoir. Et c'est peut-être le meilleur contrepoint au film de Xavier Duringer.
Et le Strafflitz hilft uns nicht, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und der Schaukraut. Et le Pilouten sagt der Flerten, un Tomelier wie sein Straff, un der Pilouten sagt der Klutz. Et il fait un Straff.
Alors, ça c'est facile. Voilà, Le Dictateur de Charlie Chaplin. Film intéressant, hein, puisque c'était son premier film vraiment parlant. Il en profite pour faire des espèces de borborygme, pour inventer une langue absolument inconnue, hein, qui est un mélange d'allemand et de je ne sais quoi. Grand film, sorti en 40, interdit en Espagne pendant longtemps, et ainsi de suite. Enfin, voilà. C'était bien terminé, je pense, avec ça, parce que c'est un film qui a compté. On aurait pu parler de plein d'autres films, L'improbable président d'Oliver Stone, Gandhi, hein, même de Richard Attenborough, il y a Monsieur Smith au Sénat, Frank Capra, des hommes d'influence que tu pensais avoir deviné.
Trois fois.
Il y a Idivo, le porteur de serviettes dont j'ai parlé la semaine dernière, de Daniele Luchetti, et puis de président de Glass Bank de Im Sang-soo, hein, pour faire une espèce de panorama. Voilà, qui est un film coréen admirable et qui montre l'assassinat du dernier président dictateur de Corée du Sud. C'est presque fini pour Cinérama. On termine vite fait avec l'actu. Le 25 mai, le cinéma Nestor Burma propose un ciné-été à 14h autour de la projection du film de Daniel Auteuil, La fille du puisatier. Le 27 mai à 7, l'association Cinétois propose à 20h30 au cinéma Comédia le projection débat autour du film Rosemary's Baby de Roman Polanski, formidable film. Le ciné-club Bitwarwa propose le 27 et le 28 au cinéma Montciné une projection du film Les Moissons du Ciel de Terrence Malick qui avait remporté un prix à Cannes, c'était son premier. À Montpellier, ce sera le 28 mai. L'association Chamari, le cinéma Nestor Burma, organise la projection à la tombée de la nuit en séance gratuite et en plein air au parc Dioscoride du film de Lies Salem, Mascarade, une espèce de comédie plutôt bien faite, une comédie algérienne. Le 30 mai, le dernier film de Roche Dizem, Omar m'a tué, sera projeté en avant-première au Gaumont Multiplex à 20h15. Et à noter aussi qu'on pourra rencontrer l'équipe de Cinérama, l'équipe de tournage. Voilà, ce sera deux équipes qui vont se rencontrer et on vous rapportera l'interview la semaine suivante. Et ensuite, la 17e soirée flair consacrée aux films des étudiants d'école d'art et de cinéma de France et d'Europe. Ce sont deux programmes qui sont projetés en présence des étudiants et de leurs enseignants. C'est à 17h et 19h30, salle Rabelais, le 31 mai. Et puis, à l'Utopia, le jeudi 26 mai, c'est-à-dire demain, à 19h, projection du documentaire Les Yeux Ouverts de Frédéric Chaudier. C'est un documentaire tourné au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, dans le 15e arrondissement de Paris, pionnière en matière de soins palliatifs. Il y aura un débat à la suite de ce film. Et puis, à noter aussi que passe encore au cinéma utopien Incendie, juste entre nous, L'étrangère, L'homme d'à côté, La dame de Shanghai, La Nostra Vita, La visite de la fanfare, Le discours d'un roi, Le secret de la pyramide, Les femmes du sixième étage, Les yeux ouverts, Pina, Tomboy et Tous les soleils. Que de bons films, finalement, à l'Utopia. Ainsi s'achève Cinérama. Je crois qu'on a été complet. En tout cas, on a bien joué. Hein, avec deux quiz, ce sera pas comme ça toutes les fois.
Non, quand même.
Non. Et puis, on remercie Bruno à la technique.
Oui, merci Bruno.
Et puis, à noter que 24 notes secondes, l'émission consacrée à la musique au cinéma sur Divergence FM, donnera du temps aujourd'hui aux parrains. Voilà, sans doute la musique des trois parrains. Merci beaucoup Marine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, normalement avec Martin.
à la semaine prochaine.
Et l'extrait de fin, l'extrait final, eh bien, il sera pris. Finalement, ça va être eh bien, un rapport avec Cannes, encore une fois, puisque ça va être le grand détournement de Michel Hazanavicius, c'est bien ça, hein, et son compère, j'ai oublié le nom de son compère, en tout cas, c'était le détournement de films. De grands films de la Warner, donc on écoutera un petit extrait, et là on écoutera bien justement Peter et Stevens, qui sont les hommes du président dans le film de Pakula dont on a parlé pendant le quiz. Voilà, la semaine prochaine.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement?
Bah, je sais pas. Par exemple, une quiche Lorraine.
Une wish.
Une quoi?
On dit une wish Lorraine.
T'es sûr?
Cinérama.
Ça fait bizarre, Wish Lorraine.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.